franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, impensable il y a encore quelques semaines, la femme la plus puissante d'Europe est en difficulté. Crise politique en Allemagne, Angela Merkel fragilisée, l'hypothèse de son départ de la chancellerie n'est plus de la science-fiction. Les négociations pour la constitution d'un gouvernement sont dans l'impasse. Elle est en ce moment même dans le bureau du président allemand Steinmeier. Plus de voitures essence à Paris dans moins de 15 ans. Le plan climat d'Anne Hidalgo est présenté aujourd'hui au Conseil de Paris. Est-on dans le slogan ou est-ce que ce plan peut réellement être appliqué? Invité de ce journal, Gilles Dansard, spécialiste des questions de transport. L'époque où Monsieur le maire était tout puissant et se sentait indispensable et révolu, le congrès des maires de France est l'un des événements de la semaine au-delà des questions budgétaires. C'est une façon de faire de la politique qui est en train de disparaître. Reportage éloquent de Claire Chaudière. Et à propos d'argent, une question monte. Est-ce que la baisse radicale de la taxe d'habitation est constitutionnelle, contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi, selon certains? Dans ce journal encore, la baisse radicale de la taxe d'habitation, nous en parlerons donc, et la mort de Charles Manson, le gourou à la tête de la secte qui avait tué Sharon Tate, c'est la face sombre de l'Amérique des années 60. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno.
Quelle est la tendance aujourd'hui Sébastien?
Bien, c'est un scénario plutôt classique de l'automne avec de la grisaille tenace sur la moitié nord. On peut quand même espérer des éclaircies, notamment entre la Bretagne et la Charente-Maritime. Et puis en plus de cette grisaille, une petite perturbation donne quelques pluies faibles au nord de la Seine et sur le nord-est. Ce sera nettement plus agréable avec un soleil qui s'imposera cet après-midi sur la moitié sud et puis les températures sont plutôt douces, variant de 10 à 20 degrés en général, mais seulement 6 à 10 degrés sur le quart nord-est.
Plus de détails à 13h30 dans cette édition encore. Les noces de platine entre Elisabeth II et le prince Philippe aujourd'hui à Londres, avant de reparler de la reine dans la marche de l'histoire. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. Entre le Brexit, les populistes, le chômage de masse et la crise des migrants, l'Europe, ces dernières années, pouvait s'appuyer en toutes circonstances sur au moins un pilier, l'Allemagne d'Angela Merkel. Eh bien, ce pilier, à son tour, est en train de se fissurer. L'hypothèse d'une Allemagne sans la chancelière Merkel ne relève plus de la science-fiction. Berlin traverse une crise politique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Berlin, crise politique parce que près de deux mois après les législatives, l'Allemagne n'a toujours pas de gouvernement. Les négociations entre libéraux, écolos et conservateurs sont officiellement closes depuis quelques heures, depuis notamment que les libéraux ont claqué la porte. Alors, quelles sont les pistes de sortie de crise, Cyril? Que va-t-il se passer aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, il y a un personnage central dans cette histoire. C'est pas Angela Merkel, c'est le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui occupe d'habitude une fonction très honorifique. Mais là, il va jouer un rôle institutionnel majeur. C'est lui qui peut dissoudre le Bundestag pour convoquer de nouvelles élections en 2018. Ça, c'est le scénario numéro un. Il peut aussi confier à Angela Merkel la charge d'un gouvernement minoritaire. La chancelière devrait, dans ce cas, négocier au coup par coup à chaque vote au Parlement, avec tout le risque d'instabilité que ça comporte. Et le président préférerait une troisième solution, que les partis politiques s'entendent sur une autre coalition. Et aujourd'hui, tous les regards se tournent vers les sociaux-démocrates du SPD qui ont refusé jusqu'ici une nouvelle grande coalition. Mais la pression est très forte depuis ce matin pour que le SPD accepte au moins d'ouvrir la porte. Martin Schulz devrait donner une réponse dans la journée.
Alors Cyril Sauvageau, l'Allemagne sans Angela Merkel, c'est sérieusement envisagé aujourd'hui?
C'est possible, dans la mesure où Angela Merkel paraît quand même très mal en point. Elle était déjà fragilisée après son mauvais résultat aux législatives. Et là, elle n'a pas su faire preuve de l'autorité nécessaire pendant les négociations pour trouver un compromis. C'est donc un échec politique majeur. Ça dit, ça ne signifie pas forcément la mort politique d'Angela Merkel pour une raison simple. Son parti, la CDU, n'a pas de plan B à l'heure où on se parle. Pas de relève évidente. Et même s'il faut retourner aux urnes début 2018, la chancelière pourrait bien être encore et toujours le meilleur recours, même si elle n'apparaît plus du tout aujourd'hui comme la femme la plus puissante du monde.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin pour France Inter et c'est le monde à l'envers. Il y a une demi-heure, un communiqué de l'Élysée pour dire que Paris souhaite qu'une Allemagne reste stable et forte pour avancer ensemble. Ce que paye notamment Angela Merkel auprès d'une partie de son propre camp, c'est d'avoir ouvert grand les frontières aux migrants ces dernières années. Et cette crise des migrants, elle est loin d'être terminée. Illustration aujourd'hui sur l'île de Lesbos. La mairie débordé, se met symboliquement en grève et appelle à la grève générale. Reportage Angélique Cournis.
Ce ne sont ni les organisations non gouvernementales sur place, ni les volontaires qui viennent en aide aux réfugiés qui sont en grève aujourd'hui à Lesbos, mais bien la mairie, la police et toutes les institutions qui descendent dans la rue pour protester contre le surpeuplement des migrants sur l'île. Efila Tsoudi, jointe par téléphone de l'organisation Mosaïque qui donne des cours aux migrants, soutient le mouvement. Le maire est fatigué d'attendre des mesures du ministère qui ne viennent pas. Il n'est pas écouté, nous non plus, et il n'est pas question de construire un deuxième camp pour des réfugiés. C'est la première fois qu'une mairie appelle à la grève générale. 6000 réfugiés s'entassent rien que dans le camp de Moria, qui a une capacité trois fois inférieure. La mairie veut s'en tenir à 4000 réfugiés. Nous ne voulons pas, explique le maire de l'île, Spiros Galinos, que notre solidarité devienne un enfer tant pour les réfugiés que pour les insulaires. Lesbos ne doit pas se transformer en île prison. Pour protester contre les conditions de vie déplorables à Moria, une vingtaine de réfugiés ont entamé une grève de la faim depuis maintenant 2 semaines. Athènes, Angélique Cournis, France Inter.
Une crise politique en Allemagne à l'heure où Emmanuel Macron consulte les principaux dirigeants de partis politiques à l'Élysée sur son plan pour justement sortir de la crise en Europe. Le gouvernement très critiqué par ailleurs par les élus locaux et les maires, en particulier l'Assemblée Générale des Maires de France, le Congrès des Maires de France. Et cette semaine, l'un des événements importants dans les jours à venir. Et cette question en fil rouge, est-ce que l'époque où monsieur le maire ou bien madame avait tout pouvoir dans sa ville ou son village est révolue? Le Congrès des maires de France se tient donc dans une ambiance pour le moins morose. Le volet politique, ce sont des désaccords profonds avec le gouvernement, l'encadrement de la dépense des collectivités locales, la baisse des aides au logement, des emplois aidés, la quasi-suppression de la taxe d'habitation. Cela fait beaucoup de dossiers, on y revient dans un instant. Mais au-delà des questions politiques et économiques, il y a un malaise profond. Les maires se demandent s'ils servent encore à quelque chose. Claire Chaudière, vous avez rencontré le maire d'une petite commune de l'Oise.
Oui, un élu pourtant enthousiaste lors de son premier mandat, mais qui raconte comment sa capacité d'intervention s'est progressivement diluée ces dernières années avec l'accélération de l'intercommunalité, ces regroupements de plus en plus larges de communes associés à une perte de compétences, assainissement, transport, bientôt urbanisme. Le maire de Fidjams, 2500 habitants à 20 km de Creil, décrit une crise quasi existentielle qui va bien au-delà des questions d'argent.
Bon, allez, on a encore 10 ans pour faire encore les mariages, les Pax. Et après. J'ai une image où quand je passe à l'entrée du cimetière, il y a une stèle du deuxième maire de Fidjams, juste après la Révolution. Et moi, des fois, je passe à côté et je me dis, bah, tiens, moi, je suis certainement le dernier maire. Il y a peut-être encore un mandat. Et après, nos communes n'existeront plus.
Pas dans leur état actuel, en tout cas, obligées probablement de fusionner entre elles, explique ce maire, pour retrouver du sens et la possibilité de porter des projets. Mais avec quelle autonomie financière? C'est tout de même bien sur ce point crucial qu'il faut aujourd'hui se battre, martèle Alex Seguer, son prédécesseur, durant 4 mandats.
C'est une sorte de reprise en main de l'indépendance des communes par rapport au pouvoir central. On décide, par exemple, de supprimer la taxe d'habitation. Alors moi, je suis convaincu que la première ou la deuxième année, ça sera compensé à 100%. J'en suis intimement convaincu. Le problème, je dirais, c'est après.
Et après, des maires qui réclament donc sur ce point des garanties très claires concernant à la fois le moyen et le long terme.
La taxe d'habitation, on y vient, Claire, c'est l'un des motifs de fâcherie. En effet, cette baisse radicale de la taxe, 80% des Français exonérés. Et le gouvernement a beau promettre des compensations, les maires sont inquiets. Et la bataille se déplace maintenant sur le terrain juridique. Pourquoi certains Français paieraient la taxe d'habitation et pas d'autres? N'y a-t-il pas rupture de l'égalité entre citoyens devant la loi? Des élus envisagent de porter l'affaire devant le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils peuvent obtenir gain de cause? La réforme de la taxe d'habitation est-elle inconstitutionnelle? Question posée au juriste Didier Mauss.
Il a toujours été admis en matière fiscale que l'on pouvait fixer des seuils, soit des seuils d'exonération, soit des seuils d'imposition. Alors la question est de savoir à partir de quand un seuil devient disproportionné, anormal et peut constituer une rupture d'égalité fiscale des Français devant l'impôt. Mais c'est pas tranché de manière très claire. Mais il y a surtout derrière cela une question constitutionnelle, alors parfaitement évidente, c'est est-ce que l'allègement de la taxe d'habitation ne va pas créer une perte de recettes faite pour les communes et les autres collectivités qui va être de nature à nuire à leur autonomie. Et donc là, il y a un grand débat sur est-ce que véritablement il y a une rupture constitutionnelle à cause de la perte, du risque de perte de l'autonomie financière des collectivités.
Le constitutionnaliste Didier Mauss au micro d'Estelle Schmitt ce matin à la chaîne BFM Business affirmait que le gouvernement était sur le point d'enterrer la réforme des aides au logement. Démenti immédiat de Matignon, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit parler cette semaine devant le Congrès des maires de France. Pour l'instant, il prononçait ce matin son discours sur l'industrie en précisant qu'il est prêt à baisser à nouveau les cotisations sociales, y compris pour les salaires un peu plus élevés, au-delà de 2,5 SMIC. Voilà une maire qui exerce pleinement son pouvoir, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec cet objectif affiché à nouveau ce matin, faire de Paris une ville qui ne fonctionne qu'avec des énergies renouvelables en 2050. Très vaste ambition du plan climat présenté aujourd'hui par l'équipe Hidalgo. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Bruno.
500 mesures en tout, Thibault, pour atteindre cet objectif. Zoom avec vous sur les mesures en matière de transport.
Et la proposition la plus emblématique, c'est la fin des voitures diesel et à essence d'ici 2030. Un bannissement des véhicules anciens qui n'en a pas le nom. À aucun moment dans son plan climat, la mairie de Paris ne parle d'interdiction. Une précaution pour ne pas ajouter de carburant dans le moteur des anti-Hidalgo. La mairie parle d'une trajectoire crédible et soutenable. Un mouvement donc qui est déjà lancé et au plus haut niveau, puisque les propositions de l'exécutif parisien anticipent les annonces du plan climat de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a en effet promis en juillet d'arrêter la vente des véhicules à moteur thermique d'ici 2040. La mairie va donc plus loin, dans le temps, mais aussi dans l'espace. Le plan climat s'attaque aux périphériques, plus d'1 million de véhicules par jour, 40% du trafic routier parisien. L'autoroute urbaine la plus empruntée d'Europe pourrait devenir à terme un vrai boulevard, avec notamment une voie pour le covoiturage. Un bémol cependant, cette mesure, comme beaucoup d'autres, sont des réflexions. Elles sont ambitieuses, mais pas contraignantes. Et elles pourraient donc rester lettre morte. C'est l'inquiétude notamment des écologistes, qui sont pourtant alliés à l'exécutif parisien.
Invité de ce journal, Gilles Dansart. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Créateur de Mobilettre, lettre sur les mobilités, spécialiste des questions de transport. Avant de détailler tout cela, Gilles Dansart, dans la place faite à la voiture propre, la voiture électrique, est-ce que Paris est en retard ou en avance pour l'instant par rapport à d'autres capitales?
Oh, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment en avance, oui. Parce que le problème, ce sont les bornes de recharge. Oui. Et donc, c'est extrêmement compliqué dans une ville dense d'équiper les immeubles, les administrations, etc. Donc, on n'est pas vraiment en avance, on n'est pas complètement en retard. Mais là, n'est pas complètement l'enjeu aujourd'hui sur la mobilité à Paris.
Alors, où est l'enjeu sur la mobilité à Paris?
L'enjeu, c'est qu'il faut convaincre les gens qui aujourd'hui prennent leur voiture individuelle à ne plus le faire demain, ou ouais. à moins le faire demain. Ouais. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'on peut décider des objectifs, on peut décider de contraindre, on peut dissuader, mais il faut que vous et moi soyons convaincus qu'on aura d'autres solutions que celle de prendre sa voiture le matin et le soir pour aller à Paris ou pour revenir à Paris. Ouais. La question n'est pas celle des Parisiens. 80% des Parisiens n'ont plus de voiture.
80%
des Parisiens ne sont plus possesseurs de voiture.
Oui.
La question est donc plutôt liée à tous les gens qui viennent sur Paris parce qu'ils ne sont pas convaincus que le RER les amènera en temps et en heure, parce qu'ils habitent dans des zones qui sont mal desservies ou toute autre raison. Donc la question est globale. Comment convaincre nos concitoyens de faire autrement qu'avec leur voiture individuelle du matin au soir?
La question est aussi, voire d'abord, celle des banlieusards. Autrement dit, dans cette optique-là et en pensant à une comparaison internationale, est-ce que la mairie de Paris s'y prend bien? Est-ce qu'il y a un dialogue avec les communes limitrophes et avec la banlieue dans la mise en place d'une politique de transport, voilà, par rapport à ce que peut faire Londres ou d'autres villes?
Clairement, le bas blesse aujourd'hui à Paris et ouais. dans l'ensemble de la région capitale. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance extrêmement morcelée. Paris veut faire des choses, mais ne peut pas les faire sans oui. ce qu'on appelle le syndicat des transports d'Île-de-France, rebaptisé Île-de-France Mobilité, oui. ne peut pas le faire sans l'État. Donc, l'avenir des transports en Île-de-France et à Paris dépend d'une bonne entente entre tous les acteurs. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. La mairie de Paris ne s'occupe pas vraiment de tout ce qui est en train de se faire d'un point de vue transport collectif, avec le Grand Paris, oui. avec la modernisation des RER, alors que c'est absolument essentiel pour que des gens ne passent pas à travers Paris alors qu'ils pourraient faire autrement, et mène une politique un petit peu en solitaire. Et de son côté, l'État se repose sur le Grand Paris, alors qu'il y a aussi beaucoup d'autres décisions à prendre en matière d'aménagement, en matière de voirie. Et puis de son côté, la région est un peu entre les deux et essaie d'avoir des politiques de long terme. Mais on le sait bien, les politiques de long terme, c'est un peu l'ennemi des politiques. Et c'est pour ça que l'idée d'avoir des gouvernances de transport plutôt à 10 ans qu'à 5 ans, plutôt à 12 ans qu'à 6 ans, d'avoir deux mandats pour qu'il y ait une stabilité, c'est quelque chose que l'on connaît dans d'autres villes européennes et qui donne des résultats.
Quand Anne Hidalgo, l'équipe Hidalgo dit plus de diesel en 2024, plus d'essence en 2030 à Paris, c'est jouable ou pas ?
On peut décréter ça, mais le diesel, ça va aller vite. Pourquoi le diesel, ça va vite ? Parce que pendant 20 ans, on n'a pas voulu donner de signe prix, de signal prix, comme on dit, à l'attention des Français. On n'a pas osé taxer le diesel comme l'essence. Et le jour où on s'y est mis, on a vu le taux du diesel en France plonger. Et donc aujourd'hui, on vend moins de véhicules diesel que d'essence. Donc ça va aller vite sur le diesel. La question n'est pas simplement celle du diesel, elle est celle de l'automobile en général. Et là, les facteurs de progression sont plus difficiles, encore une fois, parce que Paris ne peut pas faire les choses toute seule.
Est-ce que la voiture autonome peut radicalement rebattre les cartes où on est encore un petit peu dans un scénario de science-fiction ?
La voiture autonome, ça ira plus vite dans des zones peu denses, en campagne, etc. Sur les zones denses, avec le grand nombre d'interactions avec les piétons, les vélos, les livraisons, etc., ce sera un peu plus lent pour des raisons de sécurité, de mise au point. Les algorithmes vont évoluer, mais ce sera un peu plus lent que dans des zones un peu moins complexes.
Autre question, et ce sera la dernière, Gilles Dansart, l'adjointe à la mairie qui présente ce plan, répète toujours cette phrase: en 2030, il y aura plus de vélos dans Paris que de voitures. Moi, ça me fait sourciller. Plus de vélos que de voitures dans un peu plus de 10 ans à Paris, ça peut être le cas, ce sera le cas ?
Je n'en suis pas certain du tout. C'est vrai que les vélos électriques vont certainement résoudre une part des problèmes. Il faut voir comment les Parisiens et les banlieusards vont appréhender cette offre de véhicules électriques, de vélos électriques, parce que toutes les zones qui sont un peu en hauteur, c'est difficile de revenir à vélo le soir.
Oui, il faut un petit moteur, ça aide.
Il faut un petit moteur. Donc, si il y a une vraie séduction du véhicule vélo électrique, à ce moment-là, ça peut aller un peu plus vite que dans d'autres capitales qui sont totalement plates.
Merci Gilles Dansart. Mobilettre, est-ce que le grand public peut y accéder ou c'est uniquement sur abonnement pour des spécialistes ?
Ils peuvent accéder à une partie des choses que nous réservons aux abonnés.
Merci beaucoup d'être venu en studio. J'ajoute que la mairie a annoncé ce matin, la mairie de Paris, toujours la création d'un deuxième centre pour SDF, réservé aux femmes, celui-ci dans le 16e arrondissement. Vous vous souvenez que l'annonce d'un premier centre il y a 2 ans avait suscité beaucoup de critiques dans le 16e arrondissement. Finalement, les choses ne se passent pas si mal.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
C'est l'un des visages les plus sombres de l'Amérique des années 60 et 70. Charles Manson vient de mourir à 83 ans, gourou d'une secte appelée la famille Manson, responsable d'une série de meurtres, notamment celui de Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski. C'était dans la nuit du 8 ou 9 août 1969. 4 jeunes gens, 3 filles, 1 garçon, un massacre à ciel au drive dans le quartier de Beverly Hills. Sharon Tate et 4 autres personnes avaient été assassinées. L'écrivain Simon Liberati a écrit un livre sur cet épisode de folie meurtrière, livre qui s'appelle California Girls, et il explique à Jacqueline Petros pourquoi Manson et sa famille ont provoqué une telle fascination noire en Amérique et ailleurs.
Il correspond à un moment historique précis. Son apparition, on va dire, dans les médias a lieu en 69. Ça correspond à une période de retournement d'opinion sur la jeunesse, tout ce qui a été un peu le printemps des fleurs des années 60. À 69. Et donc, évidemment, il focalise tout à coup la peur, l'obsession de la drogue aussi. Hein, parce qu'on a beaucoup dit et répété, ce qui était d'ailleurs vrai, que les filles qui avaient suivi Manson, qui étaient des filles relativement bien élevées, qui n'étaient pas du tout des criminels endurcis, avaient été séduites, mais aussi droguées. Donc, si vous voulez, ça correspond aussi à un moment où on va dire, voilà, la drogue, c'est dangereux. Donc, il symbolise tout ça, Manson. Et en plus, vous savez, quand ta victime est belle, qu'elle est connue, parce qu'elle était quand même assez célèbre, que son mari est un cinéaste sulfureux, comme on disait à l'époque, qu'il a fait un film sur le diable, et que vous avez un individu qui paraît l'incarnation même du malin, qui la tue alors qu'elle est enceinte. Enfin, vous imaginez bien que cet ensemble de circonstances fait que forcément on a une affaire en termes d'imaginaire qui a un retentissement énorme.
L'écrivain Simon Liberati avec Jacqueline Petros, California Girls, vous pouvez bien sûr toujours le trouver en librairie. Saad Hariri est encore en France pour au moins 24 heures. Le premier ministre libanais démissionnaire doit partir en principe demain pour l'Égypte dans un premier temps, avant de rejoindre sans doute son pays, le Liban, mercredi. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour Bruno.
L'histoire de Saad Hariri, Claude, ce n'est pas seulement une crise diplomatique entre Arabie et Liban, c'est aussi une affaire de business. Il dirige une entreprise de BTP très endettée et qui a des ardoises notamment auprès de ses employés français.
Oui, une ardoise de pas loin de 20 millions d'euros d'impayés qu'il doit effectivement à 240 ex-employés français de son groupe de BTP aujourd'hui en faillite. Alors, petit retour en arrière. On est en 2015. En Arabie, Saudi OG est engagé dans de nombreux chantiers avec l'État saoudien. Mais la chute des cours du pétrole met un coup d'arrêt à cette frénésie immobilière du royaume. Du coup, le groupe surendetté se retrouve incapable de payer ses salariés et du jour au lendemain, il se retrouve dans une situation intenable, pris au piège en Arabie Saoudite, sans argent, sans papier, totalement abandonné par leur employeur, d'où leur colère évidemment devant l'accueil reçu par Saad Hariri en France. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, était ce matin l'invité de France Inter, tout en reconnaissant la gravité de ces accusations. Il a ainsi répondu à la question d'un auditeur.
Le sujet, c'est la stabilité du Liban, dans ce territoire qui est extrêmement bouleversé. Et donc, ne réduisons pas la visite de M. Hariri à ses affaires privées.
De quoi faire bondir, évidemment, Maître Caroline Westermann. Elle représente 77 anciens salariés français de Saad Hariri.
Moi aussi, je suis très favorable à la stabilité du Liban, mais aujourd'hui, M. Hariri, qui est complètement malhonnête dans cette histoire, prend des engagements qu'il ne respecte pas. J'aimerais bien quand même que M. Macron s'intéresse de plus près à cette question et en fasse une des conditions de la poursuite des relations avec M. Hariri en personne. Je pense qu'on ne peut pas laisser sur le carreau 240 salariés français et considérer que c'est juste une petite histoire privée dans un coin.
Selon Caroline Westermann, le sujet n'a même pas été évoqué lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Saad Hariri samedi à l'Elysée.
Merci Claude Guibal. Un visage de plus pour dire la répression en Russie, celui du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Il était parmi les manifestants, souvenez-vous, place Maïdan à Kiev, contre l'influence de la Russie en Ukraine. Arrestation en 2014, 20 ans de prison et son état de santé se dégrade. Une pétition réclamant sa libération circule depuis ce matin avec les signatures de Bertrand Tavernier, Emmanuel Carrère, Michel Hazanavicius, Arnaud Desplechin ou encore Tony Marshall. C'est mon actu. Chaque semaine, dans le journal de 13h, Sandrine Houdin donne la parole à une personne, le plus souvent inconnue, mais qui a un rendez-vous important dans la semaine. Et son rendez-vous nous parle, nous intéresse autant que l'agenda de l'Élysée ou d'autres actualités. Cette semaine, une dame qui s'appelle Anaïs Dariou. Son témoignage peut être condensé dans cette terrible phrase « Mon fils adolescent est alcoolique ». C'est du passé en ce qui concerne Anaïs Dariou, mais elle sort cette semaine un livre qui raconte son histoire. En fil rouge, cette question « Qui aide les parents d'ados tombés dans l'alcoolisme ?» Histoire de honte et de solitude.
Je ne sais pas quand ça a commencé. C'est impossible à déterminer. C'est un mal insidieux, c'est... Non, vraiment, je n'ai pas vu venir.
Quelles images vous reviennent ?
La pire des images, c'est dans sa petite chambre, là, où il buvait et il fumait et il ne se nourrissait plus. Il n'y avait plus de jour, il n'y avait plus de nuit. Il buvait quelle que soit l'heure. Puis c'était des alcoolisations extrêmes. Quand il disparaissait, je pensais qu'il était mort.
Vous vous êtes sentie très seule, Anaïs ?
Ouais, vraiment, vraiment seule. L'alcoolisme, ça ne provoque pas la générosité des autres, bien au contraire. Donc c'est la honte, c'est l'isolement. Puis je traîne un poids de culpabilité qui est énorme et qui m'empêche de me confier. Un parent, c'est difficile parce qu'il a un rôle d'éducateur. Alors est-ce qu'il va sanctionner ? Est-ce qu'il va être dans la compréhension ? S'il est dans la compréhension, est-ce qu'il n'a pas encouragé ? Ce que je retenais à chaque fois, c'est que forcément, j'avais pris la mauvaise solution. Toutes les nuits, je rêvais que je tuais un bébé.
Solitude aussi à l'hôpital.
Oui, avec certains médecins qui ne connaissent pas la problématique de l'alcool. Quand on arrivait à l'hôpital avec mon fils, il était en état d'ébriété. Et on me disait, on ne peut pas le garder, on peut l'hospitaliser que quand il n'aura plus d'alcool dans le sang. Et quand il n'a plus d'alcool, il veut partir parce qu'il a besoin d'avoir de nouveau de l'alcool. Je pense que les gens qui sont spécialisés sont des gens qui s'en occupent très bien. Mais il y en a trop peu.
Beaucoup de parents, selon vous, ont ressenti cette même solitude.
Oui. On est complètement désemparés. Maintenant, si la lecture de ce livre peut délivrer un message, s'il pouvait avoir un rôle préventif, ce serait génial. Je pense que moi, j'aurais bien aimé peut-être lire ce témoignage. Peut-être que ça aurait pu m'aider un petit peu, sortir de ma solitude, ouais.
Et le livre d'Anaïs Dario s'intitule Nathanaël, c'est le prénom de son fils, livre qui sort mercredi aux éditions Pygmalion. Alors ce témoignage, c'est une des mille façons d'aborder la journée internationale des droits de l'enfant qui a lieu ce lundi. On peut aussi donner la parole aux enfants. C'est le cas sur France Inter aujourd'hui. Parmi les rendez-vous, le téléphone sonne à 19h20 ce soir. Enfants, ados, appelez au standard 01 45 24 7000 à partir de 18h. Allez sur franceinter.fr ou sur Twitter, mot-clé Telson. Pour répondre à ces questions, à quoi tu rêves? Émission animée par Fabienne Sintès entre 19h20 et 20h. Émission en partenariat avec l'UNICEF qui a interrogé l'UNICEF 500 jeunes de 15 pays différents pour connaître leurs préoccupations. Et ce qu'il en ressort, c'est que loin d'être repliés sur leur petit univers, les enfants et les adolescents s'intéressent à l'actualité. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Ils s'intéressent à l'actualité, ils sont prêts à s'engager. Illustration avec ce qui est entré depuis longtemps dans le paysage français, les conseils municipaux de jeunes. Vous êtes allé à Créteil, Yann.
Et ici, une dizaine de lycéens font partie du conseil de jeunes, tous volontaires, soucieux du monde qui les entoure. Ils se réunissent une fois tous les 15 jours pour échanger, faire des propositions dans le but d'améliorer la vie de leur quartier, de leur ville, en montant par exemple des projets de solidarité. Inès est en terminale scientifique, elle participe au conseil de jeunes depuis 5 ans.
On veut que les patients dans les hôpitaux, notamment ici intercommunal, sortent de leur quotidien d'être enfermés dans une chambre. Donc en fait, on essaye de mener des activités pour qu'ils sortent de ce contexte-là et qu'ils soient plus heureux en quelque sorte à l'hôpital. On prend du plaisir à le faire et on essaie d'aider les gens en le faisant, quoi.
Grâce au conseil de jeunes, Inès a appris, dit-elle, à vaincre sa timidité et à s'exprimer en public. Pour Christine, 17 ans, c'est un véritable apprentissage de la citoyenneté, mais aussi une ouverture sur le monde grâce aux rencontres organisées avec des jeunes d'autres pays.
Ici à Créteil, on a le conseil de jeunes et d'enfants, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Il nous donne du coup une opportunité pour de nous exprimer, de donner nos avis, nos idées sur notre ville, comment l'améliorer. Si je veux que les choses changent, il faut que je m'implique, parce que ça me concerne directement moi-même et dans un sens, je m'implique dans la démocratie locale. Ouais.
Plus tard, Christine aimerait rejoindre une association ou une ONG afin de poursuivre son engagement citoyen.
À quoi tu rêves? C'est donc la question qui vous est posée dans le téléphone sonne ce soir sur France Inter. Quand le sport charrie son lot de vilaines nouvelles, elle avait 49 ans seulement. L'ancienne numéro 1 mondiale du tennis, Yana Novotna, vient de mourir d'un cancer. Elle avait gagné à Wimbledon, notamment il y a presque 20 ans, en 1998. Une nouvelle affaire de dopage pour l'un des « soigneurs » guillemets les plus sulfureux du cyclisme, le docteur Mabuse, le neuropathe Bernard Sainz. Il vient d'être placé en garde à vue dans l'Orne. L'équipe de France de rugby traverse l'une des pires périodes de son histoire. Nouveau match de la vie générale assez lamentable, samedi dernier face à l'Afrique du Sud, et pression maximale sur le sélectionneur Guy Novès, à qui le journal L'Équipe attribue ce matin un 7 sur 20. 20 matchs depuis qu'il entraîne les Bleus, 7 victoires seulement. Il faut faire quelque chose. Écoutez l'analyse de Pierre Villepreux, lui-même ancien sélectionneur de Bleus. En cause, selon lui, notre championnat de France de rugby qui distribue beaucoup d'argent mais qui ne forme pas beaucoup les jeunes.
Le jeu qui est resté dans le top 14 pendant très longtemps ne correspondait pas au jeu moderne. Donc les joueurs qui sont intégrés en équipe de France, ils ont du mal à assimiler ce rugby qui gagne. Les présidents de clubs sont des présidents qui viennent du monde de l'entreprise et eux, ils veulent des résultats à court terme. Donc ça passe par l'achat des meilleurs joueurs le plus rapidement possible pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Et donc, quid des petits Français, on les laisse végéter et on les fait, ils vont jouer en fédéral 1, en pro D2. Mais ça, c'est quand même gênant.
Est-ce qu'un autre ferait mieux que Novès, à votre avis?
Bon, je n'en suis pas sûr du tout. Il y a eu 3 entraîneurs, Yèvremont, Saint-André, Novès. C'est tout le système qu'il faut revoir. Et après, oui, bien sûr qu'il faut trouver un entraîneur qui veuille bien rentrer dans le créneau d'un rugby qui est exigeant, qui n'est pas forcément facile à jouer aujourd'hui pour les joueurs. Mais si ce travail est fait d'ici 5-6 ans, on y sera. Ce sera la Coupe du Monde en France.
Pierre Villepreux avec Alain Gastal. Et samedi prochain, fin de la série de matchs amicaux d'automne pour l'équipe de France de rugby qui reçoit le Japon. Dans la série équipe nationale en difficulté, l'Italie du football, pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. On apprend à l'instant la démission du président de la fédération italienne, Carlo Tavecchio. En tennis, qui aurait parié en janvier sur ce podium de fin d'année, les 3 premiers mondiaux sont, selon lundi. Dans l'ordre, Rafael Nadal, Roger Federer et le bulgare Grigor Dimitrov, alias Baby Federer, vainqueur du Masters hier. Il a battu en finale le belge David Goffin, que l'on verra le week-end prochain face à la France pour le tout dernier grand rendez-vous de l'année en tennis, la finale de la Coupe Davis. Cette reine d'Angleterre est décidément celle de tous les records. Elle est doyenne des monarques et le temps n'a pas de prix sur son couple non plus. Elisabeth II et le prince Philippe fêtent aujourd'hui leurs 70 ans de mariage. Noce de platine, Marina Daras.
La reine Elisabeth II bat un nouveau record de longévité. En plus de détenir le plus long règne de l'histoire, elle devient aujourd'hui la seule reine britannique à fêter des noces de platine. De son côté, le prince Philippe, âgé de 96 ans, a pris sa retraite cet été, mais détient lui aussi le record de longévité des princes consorts britanniques. Alors qu'ils avaient célébré leur union en grande pompe, ils ont cette fois préféré fêter leur anniversaire en toute discrétion, entourés de leur famille. En cette décennie de mariage, Elisabeth et Philippe ont partagé avec le monde entier la naissance de leurs 4 enfants, 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Ils ont vécu les divorces très médiatisés de leur fils Charles et Andrew et de la princesse Anne, ainsi que la mort tragique de la princesse Diana. Ils n'ont pas été épargnés par les tabloïds britanniques qui ont rapporté les infidélités supposées du prince Philippe. Malgré tout cela, le couple royal se dit plus soudé que jamais et prône la tolérance comme ingrédient essentiel d'un mariage heureux. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Elisabeth de la Reine qui surprend tout le monde, on en reparle tout à l'heure et dans quelques minutes même avec Jean Lebrun dans La Marche de l'Histoire. Pour l'instant, la météo.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagné. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Sébastien Léas.
Entre les grisailles persistantes et le passage d'une perturbation faiblement active, le ciel reste chargé cet après-midi, des Hauts-de-France aux Côtes-Normandes et à l'Anjou, jusqu'au nord du Limousin, à la Bourgogne et aux frontières allemandes. Les éclaircies restent généralement timides et au nord de la Seine et sur le nord-est, quelques gouttes sont même possibles. Sur la Bretagne, la Vendée et de la côte charentaise au Lyonnais, on profite d'éclaircies plus franches et sur les hauteurs du Jura, des voiles de nuages élevés décorent le ciel bleu. Plus au sud, c'est le soleil qui vous accompagne cet après-midi, hormis quelques nappes de grisailles récalcitrantes près de la vallée de la Garonne qui peuvent se maintenir. Les températures de cet après-midi seront comprises entre 10 et 20 degrés en général, avec un peu moins de douceur sur le quart nord-est et des maximales variant de 6 à 10 degrés.